Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche, ces épisodes liés à des articles qui ne sont pas parus chez nos médias partenaires, mais qui ont un lien fort avec le Sud-Ouest. Nous allons évoquer un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il sera également disponible durant un mois sur le site de la chaîne. Il s'appelle « Le rugby est une fête » et c'est vous qui en êtes le réalisateur. Bonjour Christophe Duchiron.
Bonjour.
Christophe, vous êtes journaliste et documentariste, passionné de sport et de rugby en particulier. Votre documentaire et donc cet épisode sont dédiés à ce qui reste sans aucun doute la plus belle page de l'histoire du rugby landais. Elle se passe en clôture de la saison 1962-1963. Et ce jour-là, à Bordeaux, ce sont Dax et Mont-de-Marsan qui se font face. Le vainqueur de cette finale remportera le bouclier de Brennus, le prestigieux trophée du championnat de France. Cette finale, c'est l'histoire d'un département, de rivaux, de copains, de fratries aussi. Les frères Albaladejo d'un côté, Boniface de l'autre. On est entre Pagnol et Shakespeare, le comique et le tragique, et malheureusement pas seulement d'un point de vue sportif. Nous allons évoquer tout cela avec vous, mais commençons par le contexte de ce match. Cette saison-là, les deux équipes landaises ont largement dominé, et c'est très logiquement qu'on les retrouve en finale, mais l'US Dax part avec un léger avantage psychologique, puisqu'elle a déjà battu deux fois son rival cette saison-là.
Oui, bah écoutez, vous avez bien dressé le contexte de cette rencontre hors norme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le rugby landais vit à ce moment-là ses plus belles heures. Les Montois ont déjà remporté le challenge Yves du Manoir, de même que les Dacois, qui n'est pas encore du niveau cette compétition de la finale du championnat de France. Enfin, c'est quand même une compétition importante. Ce sont des équipes qui sont habituées à jouer les phases finales. Les Montois ont perdu trois finales avant de disputer celle de 1963. Les Dacois en ont perdu deux. Donc là, on a deux équipes qui sont au sommet de leur forme, en tout cas. Et ce qui est terrible, c'est que l'une, évidemment, va perdre et que l'autre va gagner. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça va déchirer, évidemment, le département.
Christophe, les rouges, les jaunes et noirs, Dax, Mont-de-Marsan, le mot de derby est parfois galvaudé, mais là on est en plein dedans. Seuls 50 km séparent les deux villes. 50 km et un antagonisme de plusieurs siècles, notamment nourri par le choix au moment de la Révolution de faire de Mont-de-Marsan la préfecture des Landes au détriment de Dax.
En effet, il y a un contentieux historique multiséculaire nimbé d'une certaine légende, je dirais. Alors en tout cas, les Dacois, y compris aujourd'hui, ont mal supporté que les Montois soient choisis pour la préfecture. Voilà, le choix se serait fait sur un certain nombre de coups fourrés. Une délégation montoise est montée à Paris, une délégation dacoise est montée à Paris également. Le vote aurait eu lieu la nuit. Il se dit, enfin en tout cas, un des interlocuteurs dans le film dit que les délégués dacois auraient été retenus dans une maison entre guillemets légère, voilà, par des jeunes femmes, payées par les Montois pour garder le plus possible les Dacois dans cette maison afin de les empêcher d'aller voter. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas? Enfin, parfois la légende est plus belle que la vérité. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contentieux historique, mais je dirais que au-delà du contentieux, Dax et Mont-de-Marsan sont quand même deux villes sociologiquement différentes, avec des passés historiques différents. Au-delà peut-être du ressentiment, il y a vraiment des villes qui sont différentes. Voilà.
Et le supporter, en l'occurrence, qui vous confie cette anecdote est l'un de vos fils rouges. On appréciera notamment sa faconde et sa mauvaise foi, parfaitement assumée du reste.
C'est une mauvaise foi qui se termine, qui est assumée, mais qui se termine toujours dans un sourire ou dans un clin d'œil. Elle est assumée, je pense que c'est quelqu'un qui prend aussi de la distance voilà, par rapport à ce qu'il dit. Je pense qu'il prend plaisir à entretenir, si vous voulez, une querelle vieille de deux siècles. Et je crois que c'est très réjouissant aussi de se chambrer, voilà, quand ça dépasse pas les bornes, voilà, de la bienséance et de la courtoisie.
Je vous salue, tous mes amis d'Aquois, vous qui portez les valeurs du rugby. Je rends hommage à ceux qui autrefois ont fait de Dax ce qu'il est aujourd'hui. La 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 la. Autrefois, on fait de Dax ce qu'il est aujourd'hui. Allez Dax!
On en revient au match en lui-même. Le palmarès des deux équipes est alors encore vierge, en tout cas de championnat de France, hein, puisque vous l'avez oui. dit, elles ont déjà remporté le challenge Yves du Manoir. Mais ce sont deux clubs historiques du rugby français. D'abord parce qu'ils sont dans un département qui vit rugby, les Landes. Ensuite parce qu'ils ont une tradition de formation très forte. Ils donnent régulièrement des joueurs à l'équipe de France. Ce 2 juin 1963, à Bordeaux, il y a notamment André Caillot, Christian Darouille, les frères André et Guy Boniface à Mont-de-Marsan, les frères Raymond et Pierre Albaladejo, Titou Lasserre à Dax. Nous sommes donc le 2 juin 1963, et la voix mythique du rugby français est également là, Roger Couder, à qui vous avez d'ailleurs consacré un autre documentaire. Et dans les travées du Parc Lescure, il y a bien plus que les 30 000 personnes que le stade peut normalement accueillir, ce qui va occasionner, dès les premières minutes, quelques scènes assez cocasses.
Oui, alors, bon, ce match provoque évidemment un engouement. À cette époque-là, la finale du championnat de France de rugby n'avait pas lieu à Paris. Donc, de mémoire, on alternait sur trois villes qui étaient Lyon, Toulouse et Bordeaux. Et là, cette année-là, c'est le tour de Bordeaux d'accueillir la finale du championnat de France. Évidemment, là, on est en Aquitaine et les Landes sont très proches de Bordeaux. Ce derby va se transporter de quelques kilomètres seulement. En tout cas, c'est à portée de voiture ou de train. Donc, il y a vraiment un engouement pour la finale. Le stade se remplit plus que de raison, si bien que les organisateurs vont installer au bord du terrain, et quand je dis au bord du terrain, c'est au bord du terrain. C'est
sur la piste du Vélodrome.
Sur la piste et même sur la pelouse, vraiment, sans exagérer, à 3-4 mètres de la ligne du terrain. Il y a vraiment une proximité très grande, on est presque à la limite du danger. Hein, on peut glisser, les joueurs peuvent être emportés dans leur élan. Enfin, toujours est-il que ces supporters sont là, et en fait, quand un ballon sort en touche, les spectateurs qui sont installés derrière ces spectateurs au bord de la pelouse protestent parce que les spectateurs au bord de la pelouse masquent une partie du jeu, quoi. Donc pour protester, ceux qui sont assis derrière, dès qu'un ballon sort en touche, ils le gardent et ils protestent. Et en fait, ils demandent aux spectateurs devant de s'asseoir. Et donc, ça donne lieu à des arrêts de jeu. Aujourd'hui, on trouverait ça interminable. Enfin, déjà, à l'époque, ça l'est. Donc j'ai calculé, il y a environ 10 minutes de plus d'arrêt de jeu liés à ces ballons sorti en touche en première période. Rien que sur ces phases-là. Ça arrive 8 ou 9 fois, je crois. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Couder meuble. Mais comme c'est Couder et que c'est un merveilleux conteur, il meuble très bien, quoi. Alors, il est drôle parce qu'il est tantôt agacé, parfois incrédule, parfois carrément énervé. Enfin, voilà. Donc, ça donne lieu vraiment à une scène cocasse, inattendue. Et bien dans la veine de ce derby qui surchauffe les esprits.
Ça alors, j'avoue que c'est un fait absolument unique. Voici trois ballons qui ont disparu, on ne peut pas les rendre. Et nous assistons à une partie d'étouffe ballon, comme je n'ai jamais vu d'ailleurs, je dois vous dire. Chaque fois qu'un ballon disparaît dans la foule, il ne réapparaît plus. Et on le rend, mais avec énormément de retard. Et ça commence à énerver tout le monde, cette petite plaisanterie.
Le match avait été précédé d'une présentation de tout le folklore landais, rappel des vachettes et chasses, tout y était passé. Sur le terrain, on s'attend à une opposition traditionnelle entre la puissance du pack d'avant d'Aquois et l'habileté ballon en main des arrières montois. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il va se passer, car à la surprise générale, André Boniface, le maître à jouer des montois, va beaucoup taper au pied, ce qui n'est pas dans ses habitudes, hein, c'est ça?
Non, alors voilà, ça ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, entre Dax et Mont-de-Marsan, on a affaire à une opposition de style. Donc avant match, pour avoir parcouru la presse de l'époque, et notamment le journal Sud-Ouest, hein, qui relaye vraiment cette finale très logiquement dans ses colonnes, on doit assister à un festin de rugby, si vous voulez. Voilà, donc d'un côté, il y a en effet le pack d'Aquois, surpuissant avec un fer de lance qui s'appelle André Berry, qui est certainement l'un des meilleurs avants français de l'époque, donc une puissance. Et puis derrière, voilà, une charnière avec Pierre Albaladejo en maître à jouer. Et puis des trois quarts qui savent utiliser le ballon quand le ballon leur arrive. Bon. De l'autre côté, il y a l'école montoise, et l'école montoise est quand même très imprégnée par la personnalité d'André Boniface, qui est un esthète du rugby, mais un esthète pas pour la beauté du geste gratuit. Et donc, il a une phrase dans le film qui me plaît beaucoup, qui est « la beauté du geste ne nuit pas à l'efficacité ». Les montois, c'est le jeu à la main, on ne tape pas dans le ballon, on ne veut pas faire mal au ballon, donc on joue à la main. Voilà. Et on joue à la main parce qu'il a développé avec son frère Guy, son cadet, une complicité dans la vie très grande, et au poste de trois quarts centre aussi. Et donc, cette opposition de style doit donner lieu à un festin de rugby. Or, dès le début du match, on se rend compte de quoi, c'est que dès qu'il a le ballon, André Boniface, au lieu de jouer à la main, il tape pour repousser les Dakois. Donc, tout ça, c'est évidemment très tactique. Il veut les faire courir et empêcher les Dakois de monter sur la ligne de trois quarts montoise pour se faire découper. Et il le fait pour une raison, c'est qu'avant de jouer cette finale, il en a déjà perdu deux. Il ne veut pas revivre les scènes auxquelles il a assisté, c'est-à-dire un vestiaire effondré après match, suite à la défaite, des larmes, voilà, des joueurs inconsolables. Donc ce jour-là, sciemment, il décide, comme il le dit, de sacrifier le jeu. Voilà. Pour l'efficacité, pour l'emporter. Il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais il le fait quand même.
Voici l'heure du combat. Nos crampons marchent à l'unisson. Honorons les maillots, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit. L'Ovalie, c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à laisser. C'est Bonnie qui va s'enflammer. Jaune et noir sont nos couleurs.
Et les choses commencent très mal hein, pour Mont-de-Marsan avec un essai imaginaire accordé à Dax. Darouille, l'ailier aux jambes de feu qui se claque d'entrée. On voit aussi d'ailleurs que c'est un rugby d'un autre temps. Darouille, blessé, ne peut pas être remplacé. Pas plus d'ailleurs que le Dakois Berry que vous avez évoqué qui prend un taquet un monumental de Casal. Et pour ce geste, Casal ne sera du reste pas expulsé. On a là deux équipes qui ont déjà perdu 5 finales à L2. C'est la tension qui les gagne durant cette première mi-temps notamment.
Alors oui, alors vous savez, il y a ce merveilleux cliché qu'on continue d'entendre hein, aujourd'hui, qui est l'enjeu à tuer le jeu. Bon, mais au-delà du cliché, comme dans tous les clichés, il y a quand même un fond de vérité. Donc là, on est entre deux équipes qui ont perdu des finales, hein, comme vous venez de l'évoquer. 5 à L2, donc c'est la victoire à tout prix. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de jeu, il y a très peu de jeu dans cette finale, à cause du manque de rythme, des ballons gardés en touche, à cause de la tactique montreuse, etc. Il y a honnêtement très très peu de jeu. Mais il y a un nombre de rebondissements, si vous voulez, dans cette finale, et notamment en première période, qui rendent finalement ce match peut-être plus proche du dessin animé que d'une finale de rugby jouée dans des conditions normales. Donc il y a cet essai, en effet, il y a un essai imaginaire accordé par l'arbitre, mais à la décharge de l'arbitre, honnêtement, il y a une forêt de joueurs devant lui.
Lasser, un coup de pied à suivre derrière. Hop, c'est dangereux. Et non, c'est sauvé. Essai, il accorde l'essai.
Évidemment, l'image, elle prouve vraiment parfaitement qu'à aucun moment le Dakois n'a aplati dans l'embut. Ça fait pas l'ombre d'une ambiguïté. Sauf que c'est toujours pareil. Dans le feu de l'action, l'arbitre, il faut prendre une décision. Voilà. C'est une erreur manifeste. Donc, il y a ça. Il y a le coup de poing, en effet, de Pierre Casal sur André Berry. Coup de poing par derrière. Aujourd'hui, voilà, avec la vidéo, le type serait sorti immédiatement expulsé. Et suspendu lourdement, ça vaut une pénalité, rien de plus, voilà, en faveur des Dakois, mais c'est vraiment un drôle de match.
Trop tendu ça, beaucoup trop tendu comme finale évidemment, Les joueurs ne se maîtrisent plus. Certains joueurs ne se maîtrisent plus.
Alors, il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, qui est la chaleur. Voilà. On est le 2 juin, il fait une chaleur étouffante sur Bordeaux, et ça compte aussi sur ce jeu qui a du mal à se développer. Mais enfin, voilà, c'est vraiment une finale quand même, c'est à couteau tiré.
Et en deuxième mi-temps, quand même, le Stade Montois va petit à petit renouer, au moins partiellement, avec sa tradition de jeu. On garde en mémoire notamment cette sublime passe croisée d'André Boniface pour son frère Guy, c'était leur marque de fabrique, qui aboutit à un essai finalement refusé.
Quelle magnifique passe croisée d'André Boniface à Guy, un des chefs-d'œuvre de cette partie. Vous avez vu comment il a amorti sa passe et comment Guy est parti comme un fer de lance dans la défense d'Aquaz.
Mont-de-Marsan s'impose, finalement, 9-6. On rappelle qu'un essai valait alors 3 points, le tout sous un déluge de grêle. Cette victoire reste encore aujourd'hui en travers de la gorge des Dacquois, notamment des supporters que vous interviewez et qui étaient présents ce jour-là.
Oui, alors, si vous voulez, un peu le principe du documentaire, c'était d'interviewer presque 60 ans après uniquement des interlocuteurs qui avaient vécu la finale directement dans le stade, qu'ils soient sur le terrain ou en tribune. Donc on a là 4 joueurs, hein, 2 Dacquois, 2 Montois, j'ai quand même respecté la parité, et des supporters, pareil, Dacquois et Montois, qui étaient présents dans le stade. Oui, alors évidemment, hein, ils ont vécu le match tous différemment. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y avait quand même une ambiance qui était quand même formidable, quoi. Malgré ce derby, malgré l'antagonisme, malgré la rivalité, malgré l'enjeu, avant match, c'est quand même tout le monde est bras dessous à faire la fête ensemble. Le terrain est envahi avant le match, ce qui donne quand même des images réjouissantes. Et pendant le match, quand même, tout ça est quand même très très bon enfant. On est quand même dans le rugby, on est quand même avec des gens qui savent se tenir. Et encore une fois, malgré l'enjeu et malgré la déception, hein, évidemment, la défaite pour les Dacquois, ce match est quand même déroulé, voilà quoi, dans un état d'esprit irréprochable. Alors après, évidemment, le coup de sifflet final sépare le monde en deux, les Landes tout particulièrement. Il y a les vainqueurs et les vaincus. Et évidemment, la peine est lourde chez les Dacquois, mais ça reste, je dirais, une plaie encore aujourd'hui. Voilà, il y a une vraie déception.
Les stages très loin pour Boniface, qui ne peut prendre cette balle. Et l'arbitre aussi, la fin de cette finale.
Ces 4 joueurs, ce sont Pierre Albaladejo, Titou Lasserre, André Boniface et Christian Darouille, que vous avez replongé hein, dans leurs souvenirs. Qu'est-ce que vous en gardez de ces confidences?
Une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire ce documentaire, c'est que bon, ça me permettait de revoir quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Pierre Albaladejo, que je connais depuis de nombreuses années, que j'ai côtoyé pendant 20 ans à France 2, quand il était consultant. Mais ce qui me plaît, si vous voulez, c'est que on est aussi dans un rugby amateur qui change beaucoup de choses. Alors, je suis pas en train du tout de décrier le rugby professionnel, mais c'est pas la même chose, quoi, de s'entraîner 2 fois par semaine que de s'entraîner 2 fois par jour. Le professionnalisme, c'est quand même l'obligation du résultat. Donc je vous dis pas du tout que les valeurs du rugby en souffrent, mais enfin en tout cas elles sont plus tout à fait les mêmes. Bon, pour revenir au témoignage, si vous voulez, des gens que j'ai interviewés, il y a des propos quand même qui les inscrivent pour moi un peu, qui les font appartenir un peu à la race des seigneurs de ce jeu, hein, si vous voulez. D'abord, ce sont d'immenses rugbymen. Dans l'histoire du rugby français, on est là avec des gens qui comptent. André Boniface, Christian Darouille, qui a été quand même un 3-quarelle exceptionnel, qui a été pendant longtemps le recordman des essais marqués en équipe de France. Ce sont des types qui savent se tenir. Voilà. Ces gens-là se rassemblent, si vous voulez, sur des valeurs. Voilà. Il y a une fraternité au-delà de la couleur des maillots, au-delà de la rivalité rugbystique. Ce qui les rassemble, c'est une certaine idée du rugby, une certaine idée de la fraternité. Au bout d'un moment, peu importe la victoire. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que même encore aujourd'hui, André Boniface, il est content d'avoir gagné, mais il est quand même désolé d'avoir gagné dans ces conditions-là. Et un des premiers gestes d'André Boniface après le match, c'est d'aller embrasser Pierre Albaladejo, le vaincu. Voilà, parce que lui sait ce que c'est que d'avoir perdu des finales. Au-delà de l'aspect rugbystique, je trouve que cet événement-là, et c'est ce qu'essaye de décrire modestement le film, raconte deux, trois choses sur la nature humaine dans ce qu'elle a de plus beau, tout simplement. Voilà.
Oui, il y a une phrase qui résume d'ailleurs bien ce sentiment dans votre documentaire. Au fond, loin de ce qui les sépare, nous aimons ce qui les rassemble. C'est vraiment ce qui, peut-être, est la morale de votre de travail
oui,
sur
exactement,
ce,
oui.
ce match de légende.
Oui, et la question, c'est ce qu'on pourrait encore dire des choses pareilles après une finale de championnat de France aujourd'hui. Les joueurs se respectent, les clubs se respectent, ça, il n'y a aucun souci par là. Mais bon, voilà, est-ce que le professionnalisme là-dedans, est-ce que ça n'a pas modifié les choses inévitablement ? Mais enfin, en tout cas, à aucun moment, le propos de ce documentaire, et je dirais même le propos des interlocuteurs hein, dans le film, c'est un propos passéiste, c'est pas c'était mieux avant, et aujourd'hui c'est lamentable, pas du tout. Hein. L'idée c'était de leur faire revivre le moment présent, 60 ans après.
Christophe, je le disais, cette histoire est aussi une tragédie, car l'année suivante, trois joueurs de l'US Dax décèdent dans un accident de la route, Jean Autatz, Émile Carrère et Raymond Albaladejo. Quatre ans plus tard, c'est Mondo Marsan qui est frappé à son tour et une autre fratrie quand Guy Boniface perd la vie. Ces drames ont ajouté a posteriori à la légende de ce match.
Oui, alors, il y a un homme dans le film qui raconte cette histoire très bien parce qu'il est concerné au premier chef, cet homme, c'est Claude Dufaux. Donc Claude Dufaux, il était présent au stade à Bordeaux en 1963. À l'époque, il était un tout jeune joueur de l'US Dax. Il avait fait un match en première en décembre 62 à l'âge de 16 ans. Donc c'était un supporter de l'US Dax. Et puis, mais aussi un joueur. Et donc en 1964, suite à un match à Bordeaux, je crois, voilà, une voiture doit le ramener à Dax. Au dernier moment, Pierre Albaladejo lui dit « Écoute, non, moi je vais revenir. C'est pas la peine que tu montes dans la voiture. » Et malheureusement, cette voiture... voilà, accidenté, va tuer trois hommes, trois joueurs de l'US Dax, trois jeunes joueurs. Ça provoque une émotion terrible vraiment pour un département, pour une ville et aussi pour le rugby français, hein, il faut quand même le savoir. Et cet homme-là, Claude Dufaux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Claude, il nous a dit il y avait quelque chose de puissant qui existait entre les joueurs. Et la beauté tragique, comme vous l'avez dit, la beauté tragique, c'est que ces hommes qui se sont affrontés sur le terrain de rugby, ce drame, ce double drame, celui des Dacois et celui des Montois qui vont perdre Guy Boniface, ce drame va les rapprocher, il va les rapprocher pour l'éternité. Et pour évoquer une note de grande tristesse dans ce documentaire, c'est que Claude Dufaux est décédé la semaine dernière d'une crise cardiaque et ce film lui est dédié. Voilà, parce que c'était un type formidablement humain, voilà.
Merci beaucoup Christophe Duchiron d'être venu au micro de Podcasting pour évoquer votre documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et en replay pendant un mois sur le site de la chaîne. Il s'appelle Le Rugby est une fête et je le recommande tout particulièrement, que l'on aime d'ailleurs ce sport ou pas, parce que ce sont surtout des histoires de vie que vous nous racontez dans ce documentaire de 52 minutes. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignier, Marion Rio et Guillaume Cascara, Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.